ceux qui coexistent en nous. Ne faut-il pas nous l'avouer à nous-mêmes, nous autres artistes, il y a en nous une inquiétante discordance. Notre goût d'une part et notre force créatrice d'autre part sont séparés d'une façon singulière. Ils demeurent séparés et ont une croissance particulière, je veux dire qu'ils ont des degrés et des temps différents de vieillesse, de jeunesse, de maturité, de friabilité, de pourriture. En sorte que, par exemple, un musicien pourrait composer durant toute sa vie des choses qui seraient en opposition avec ce que son oreille d'auditeur exercé, son cœur d'auditeur, apprécie, goûte et préfère. Il n'est même pas nécessaire qu'il connaisse cette contradiction. On peut, comme le démontre une expérience presque douloureusement régulière, dépasser facilement, avec son goût, le goût que l'on a dans sa force créatrice sans même que cette force en soit paralysée et entravée dans sa production. Mais il peut arriver le contraire, et c'est là-dessus que j'aimerais attirer l'attention de l'artiste. Un créateur continuel, une mère parmi les hommes, dans le sens supérieur du mot. Quelqu'un qui ne sait et ne connaît plus autre chose que les grossesses et les enfantements de son esprit. Qui n'a plus du tout le temps de réfléchir sur sa personne et sur son œuvre, et de les comparer. Qui n'a pas non plus l'intention d'exercer son goût. Qui l'oublie simplement et le laisse aller au hasard. Un tel homme finira peut-être par produire des œuvres que sa capacité de jugement ne peut depuis longtemps plus atteindre. Ce qui fait qu'il dira des bêtises sur elle et sur lui-même. Il en dira et il en pensera. Cela me semble être le rapport presque normal chez les artistes féconds. Personne ne connaît plus mal un enfant que ses parents. Je dirais même qu'il en est ainsi, pour prendre un exemple énorme, du monde des poètes et des artistes grecs tout entier. Il n'a jamais su ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le romantisme ? On se souvient peut-être, du moins parmi mes amis, que j'ai commencé à me jeter sur le monde moderne avec quelques erreurs et quelques exagérations. Et en tous les cas, rempli d'espérance. Je considérais, qui sait à la suite de quelles expériences personnelles, le pessimisme philosophique du XIXe siècle comme le symptôme d'une force supérieure de la pensée, d'une bravoure plus téméraire, d'une plénitude de vie plus victorieuse que celle qui avait été le propre du XVIIIe siècle, l'époque de Hume, de Kant, de Condillac et des sensualistes. Je pris la connaissance tragique comme le véritable luxe de notre civilisation, comme sa manière de prodiguer la plus précieuse, la plus noble, la plus dangereuse, mais pourtant, en raison de son opulence, comme un luxe qui lui était permis. De même, j'interprétais la musique allemande comme l'expression d'une puissance dionysienne de l'âme allemande. En effet, je croyais surprendre le grondement souterrain d'une force primordiale, comprimée depuis longtemps, et qui enfin se fait jour, indifférente en face de l'idée que tout ce qui s'appelle aujourd'hui culture pourrait être ébranlé. On voit que je méconnaissais alors, tant dans le pessimisme philosophique que dans la musique allemande, ce qui lui donnait son véritable caractère, son romantisme. Qu'est-ce que c'est que le romantisme ? Tout art, toute philosophie peuvent être considérées comme des remèdes et des secours au service de la vie en croissance et en lutte. Il se pose toujours des souffrances et des souffrants. Mais il y a deux sortes de souffrants. D'abord, ceux qui souffrent de la surabondance de vie, qui veulent un art dionysien et aussi une vision tragique de la vie intérieure et extérieure. Et ensuite, ceux qui souffrent d'un appauvrissement de la vie, qui demandent à l'art et à la philosophie le calme, le silence, une mer lisse, ou bien encore l'ivresse, les convulsions, l'engourdissement, la folie. Au double besoin de ceux-ci répond tout romantisme en art et en philosophie. Et aussi, tant Schopenhauer que Wagner, pour nommer ces deux romantiques les plus célèbres et les plus expressifs, parmi ceux que j'interprétais mal alors, d'ailleurs en aucune façon à leur désavantage, on me l'accordera sans peine. L'être, chez qui l'abondance de vie est la plus grande, Dionysos, l'homme dionysien, se plaît non seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation. La méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte, par suite d'une surabondance qui est capable de faire de chaque désert un pays fertile. C'est au contraire l'homme le plus souffrant, le plus pauvre en force vitale, qui aurait le plus grand besoin de douceur, d'aménité et de bonté, en pensée aussi bien qu'en action, et si possible d'un dieu qui serait tout particulièrement un dieu de malade, un sauveur. Il aurait aussi besoin de logique, d'intelligibilité abstraite de l'existence, car la logique tranquillise, donne de la confiance. Bref, d'une certaine intimité étroite et chaude qui dissipe la crainte et d'un emprisonnement dans des horizons optimistes. Ainsi, j'ai appris peu à peu à comprendre Épicure, l'opposé d'un pessimiste dionysien, et aussi le chrétien, qui, de fait, n'est qu'une façon d'épicurien, et comme celui-ci, essentiellement romantique. Et ainsi, j'arrivais à une acuité toujours plus grande dans le maniement de l'induction, si difficile et si captieuse, où l'on commet le plus d'erreurs. Celle qui, de l'œuvre, remonte au créateur, du fait à l'auteur, de l'idéal à celui pour qui il est une nécessité, de toute manière de penser et d'apprécier aux besoins qui la commandent. À l'égard de toutes les valeurs esthétiques, je me sers maintenant de cette distinction capitale. Je demande dans chaque cas particulier, est-ce la fin ou bien l'abondance qui est devenue créatrice ? À première vue, une autre distinction semblerait se recommander davantage. Elle saute beaucoup plus aux yeux, je veux dire, savoir si c'est le désir de fixité, d'éternité, d'être qui est la cause créatrice, ou bien le désir de destruction, de changement, de nouveauté, d'avenir, de devenir. Les deux désirs, cependant, à y regarder de plus près, paraissent encore ambigus, et on ne peut les interpréter que d'après le critérium indiqué plus haut, et préféré, à juste titre, me semble-t-il. Le désir de destruction, de changement, de devenir, peut être l'expression de la force surabondante, grosse de l'avenir. Mon terme est pour cela, comme on sait, le mot dionysien. Mais ce peut aussi être la haine de l'être manqué, nécessiteux, mal partagé qui détruit, qui est forcé de détruire. Parce que l'état de choses existant, tout état de choses, tout être même, le révolte et l'irrite. Pour comprendre cette passion, il faut regarder de près nos anarchistes. La volonté d'éterniser a également besoin d'une interprétation double. Elle peut provenir d'une part de la reconnaissance et de l'amour. Un art qui, à cette origine, sera toujours un art d'apothéose. Dithyrambique peut-être avec Rubens, divinement moqueur avec Hafiz, clair et bienveillant avec Goethe, répandant sur toute chose un rayon homérique de lumière et de gloire. Dans ce cas, je parle d'art apollinien. Mais elle peut être aussi cette volonté tyrannique d'un être qui souffre cruellement, qui lutte et qui est torturé, d'un être qui voudrait donner à ce qui lui est le plus personnel, le plus particulier, le plus proche, donner à la véritable idiosyncrasie de sa souffrance, le cachet d'une loi et d'une contrainte obligatoire, et qui se venge en quelque sorte de toute chose en leur imprimant en caractère de feu son image, l'image de sa torture. Ce dernier cas est le pessimisme romantique dans sa forme la plus expressive. Soit comme philosophie schopenhauerienne de la volonté, soit comme musique wagnérienne. Le pessimisme romantique est le dernier grand événement dans la destinée de notre civilisation. Qu'il puisse y avoir un tout autre pessimisme, un pessimisme classique, ce pressentiment et cette vision m'appartiennent. Ils sont inséparables d'avec moi étant mon proprium et mon ipsimum. Cependant, mon oreille répugne au mot classique. Il est devenu beaucoup trop usé, trop arrondi, trop méconnaissable. J'appelle ce pessimisme de l'avenir, car il est en route, je le vois venir, le pessimisme dionysien. Nous qui sommes incompréhensibles. Nous sommes-nous jamais plaints d'être mal compris, méconnus, confondus, calomniés, d'être mal entendus et de ne l'être point ? Cela précisément sera notre destinée. Hélas, longtemps encore, disons, pour être modeste, jusqu'en 1901. C'est là aussi notre distinction. Nous ne nous estimerions pas assez nous-mêmes si nous souhaitions qu'il en fût autrement. Nous prêtons à confusion. Le fait est que nous grandissons nous-mêmes, nous changeons sans cesse, nous rejetons notre vieille écorce, nous faisons encore peau neuve à chaque printemps. Nous devenons toujours plus jeunes, plus à venir, plus haut et plus fort. Nous enfonçons nos racines avec toujours plus de force dans les profondeurs, dans le mal. Tandis qu'en même temps, nous embrassons le ciel avec plus d'amour, de nos bras toujours plus vastes, aspirant la lumière du ciel toujours plus avidement avec toutes nos branches et toutes nos feuilles. Nous grandissons comme les arbres. Cela est difficile à comprendre, aussi difficile à comprendre que la vie. Nous grandissons, non à un seul endroit, mais partout. Non dans une seule direction, mais autant par en haut que par en bas, à l'intérieur et à l'extérieur. Notre force pousse en même temps dans le tronc, les branches et les racines. Nous ne sommes plus du tout libres de faire quelque chose séparément, d'être quelque chose séparément. Car tel est notre sort. Nous grandissons à hauteur. en admettant que ce soit là notre destinée néfaste, car nous habitons toujours plus près de la foudre. Eh bien, nous n'en tenons pas moins en honneur ces deux destinées. Elles demeurent ce que nous nous serions partagées, communiquées, la destinée de la hauteur, notre destinée. Pourquoi nous ne sommes pas des idéalistes? Autrefois, les philosophes craignaient l'essence. Avons-nous peut-être trop désappris cette crainte? Nous sommes aujourd'hui tous des sensualistes, nous autres, hommes d'aujourd'hui et hommes de l'avenir en philosophie. Non selon la théorie, mais en pratique, pratiquement. Ceux-là, au contraire, croyaient être attirés par l'essence, hors de leur monde, le froid royaume des idées dans une île dangereuse et plus méridionale, où ils craignaient de voir leur vertu de philosophe fondre comme la neige au soleil. C'était alors presque une condition à être philosophe que d'avoir de la cire dans les oreilles. Un véritable philosophe n'entendait plus la vie, pour autant que la vie est musique. Il niait la musique de la vie. C'est une vieille superstition de philosophe de croire que toute musique est musique de sirène. Or, nous serions tentés aujourd'hui de juger dans un sens opposé, ce que pourrait être en soi tout aussi faux. De croire que les idées sont d'une séduction plus dangereuse que les sens, avec leur aspect froid et anémique, et pas même malgré cet aspect, les idées vécurent toujours du sang des philosophes. Elles rongèrent toujours les sens des philosophes, et même, si l'on veut nous croire, leur cœur. Ces philosophes anciens étaient sans cœur. C'était toujours une sorte de vampirisme que de philosopher. N'avez-vous pas, à l'aspect de figures comme celle de Spinoza, l'impression de quelque chose de profondément énigmatique et inquiétant? Ne voyez-vous pas le spectacle qui se joue ici? Le spectacle de la pâleur qui augmente sans cesse? De l'appauvrissement des sens interprété d'une façon idéaliste? Ne vous doutez-vous pas de la présence, à l'arrière-plan, d'une sangsue demeurée longtemps cachée, qui commence par s'attaquer aux sens et qui finit par ne garder, par ne laisser que les ossements et leurs cliquetis? Je veux dire des catégories, des formules, des mots. Car, que l'on me pardonne, ce qui est resté de Spinoza, amor intellectualis dei, est un cliquetis, rien de plus. Qu'est-ce qu'amor? Qu'est-ce que Deus quand ils n'ont même pas une goutte de sang? En somme, tout idéalisme philosophique fut jusqu'à présent quelque chose comme une maladie. Partout où il ne fut pas, comme dans le cas de Platon, la précaution d'une santé trop riche et dangereuse, la crainte de sens prépondérant, la sagesse d'un sage disciple de Socrate. Peut-être, nous hommes modernes, ne sommes-nous pas assez bien portants pour avoir besoin de l'idéalisme de Platon? Et nous ne craignons pas l'essence parce que... La science en tant que préjugé. C'est une conséquence des lois de la hiérarchie que les savants, en tant qu'ils appartiennent à la classe intellectuelle moyenne, n'ont pas du tout le droit d'apercevoir les questions et les problèmes véritablement grands. D'ailleurs, leur courage et aussi leur regard ne suffisent pas pour aller jusque-là. C'est avant tout le besoin qui fait d'eux des chercheurs, leur prévision et leur désir intérieur d'obtenir tel ou tel résultat. Leur crainte et leur espoir se reposent et se contentent trop tôt. Ce qui, par exemple, enthousiasme à sa façon ce pédantesque anglais Herbert Spencer, ce qui lui fait tracer une ligne d'espoir à l'horizon de ses désirs, cette tardive réconciliation entre l'égoïsme et l'altruisme dont il divague, nous inspire presque du dégoût à nous autres. Une humanité avec de telles perspectives spenceriennes, comme dernière perspective, nous paraîtrait digne de mépris et de destruction. Mais le seul fait que quelque chose qu'il est forcé de considérer comme espérance supérieure n'apparaît et ne peut apparaître à d'autres que comme une répugnante possibilité, ce fait présente un problème que Spencer n'aurait pas pu prévoir. Il en est de même de cette croyance dont se contentent maintenant tant de savants matérialistes. La croyance à un monde qui doit avoir son équivalent et sa mesure dans la pensée humaine, dans l'évaluation humaine, à un monde de vérité dont on pourrait approcher en dernière analyse à l'aide de notre raison humaine petite et carrée. Comment ? Voulons-nous vraiment laisser abaisser l'existence à un exercice de calcul, à une étude pour mathématiciens casaniers ? Qu'on se garde avant tout de vouloir débarrasser l'existence de son caractère ambigu. C'est ce qu'exige le bon goût. Messieurs, le goût du respect avant tout, ce qui dépasse votre raison. Que seule soit vraie une interprétation du monde où vous soyez dans le vrai, où l'on puisse faire des recherches scientifiques, vous voulez au fond dire mécanique, et continuer à travailler selon vos principes, une interprétation qui admet que l'on compte, que l'on calcule, que l'on pèse, que l'on regarde, que l'on touche, et pas autre chose, c'est là une balourdise et une naïveté, en admettant que ce ne soit pas de la démence et de l'idiotie. Ne semblerait-il pas, par contre, très probable que ce qu'il y a de plus superficiel et de plus extérieur à l'existence, Ce qu'il y a de plus apparent, sa croûte et sa matérialisation, pourrait être saisi en premier, peut-être même exclusivement. Une interprétation scientifique du monde, comme vous l'entendez, pourrait être par conséquent encore une des interprétations du monde les plus stupides, c'est-à-dire les plus pauvres de sens. Ceci dit à l'oreille et mis sur la conscience de messieurs les mécanistes qui aujourd'hui aiment à se mêler aux philosophes et qui s'imaginent absolument que la mécanique est la science des lois premières et dernières sur lesquelles, comme sur un fondement, toute existence doit être édifiée. Cependant, un monde essentiellement mécanique serait essentiellement dépourvu de sens. En admettant que l'on évalue la valeur d'une musique d'après ce qu'elle est capable de compter, de calculer, de mettre en formule, combien absurde serait une telle évaluation scientifique de la musique? Qui aurait-on saisi, compris, reconnu? Rien. Littéralement rien de ce qui est chez elle de la musique. Notre nouvelle infinie. Savoir jusqu'où va le caractère perspectiviste de l'existence, ou même savoir si l'existence possède encore un autre caractère, si une existence sans interprétation, sans raison, ne devient pas de la déraison, si, d'autre part, toute existence n'est pas essentiellement interprétative. C'est ce qui, comme de juste, ne peut pas être décidé par les analyses et les examens de l'intellect les plus assidus et les plus minutieusement scientifiques. L'esprit humain, durant cette analyse, ne pouvant faire autrement que de se voir sous ses formes perspectives et uniquement ainsi, il nous est impossible de tourner l'angle de notre regard. Il y a une curiosité sans espoir à vouloir connaître quelles autres espèces d'intellect et de perspectives il pourrait y avoir, par exemple, s'il y a des êtres qui peuvent concevoir le temps en arrière, ou tour à tour en avant et en arrière, par quoi on obtiendrait une autre direction de vie et une autre conception de la cause et de l'effet. J'espère cependant que nous sommes au moins de nos jours assez éloignés de ce ridicule manque de modestie de vouloir décréter de notre angle que ce n'est que de cet angle que l'on a le droit d'avoir des perspectives. Le monde, au contraire, est redevenu pour nous infini. En tant que nous ne pouvons pas réfuter la possibilité qu'il contienne des interprétations à l'infini. Encore une fois, le grand frisson nous prend. Mais qui donc aurait envie de diviniser de nouveau, immédiatement, à l'ancienne manière, ce monstre de monde inconnu? Adorer cet inconnu désormais comme le Dieu inconnu? Hélas, il y a trop de possibilités non divines d'interprétation qui font partie de cet inconnu. Trop de diableries, de bêtises, de folies d'interprétation, sans compter la nôtre, cette interprétation humaine, trop humaine que nous connaissons. Pourquoi nous semblons être les épicuriens? Nous sommes prudents, nous autres hommes modernes, prudents à l'égard des dernières convictions. Notre méfiance se tient aux aguets contre les ensorcellements et les duperies de conscience qu'il y a dans toute forte croyance, dans tout oui ou non absolu. Comment expliquer cela? Peut-être faut-il y voir, pour une bonne part, la circonspection de l'enfant qui s'est brûlé, de l'idéaliste désabusé, mais pour une autre et meilleure part, la curiosité, pleine d'allégresse, de celui qui, autrefois collé à son coin jusqu'à en être exaspéré, s'enivre et s'exalte maintenant dans l'illimité. L'ouvert absolu. Une tendance presque épicurienne de chercher la connaissance se développe ainsi. Une tendance qui ne laisse pas échapper facilement le caractère incertain des choses. De même, une antipathie contre les grandes phrases et les attitudes morales, un goût qui refuse tous les contrastes lourds et grossiers et qui a conscience, avec fierté, de son habitude des réserves. Car c'est cela qui fait notre orgueil, cette légère tension des guides, tandis que notre impétueux besoin de certitude nous pousse en avant. L'empire que, dans ses courses les plus sauvages, le cavalier a sur lui-même. Car, avant comme après, nous montons les bêtes les plus fougueuses. Et si nous hésitons, c'est le danger, moins que toute autre chose, qui nous fait hésiter. Les ralentissements de la vie. Tel est le sentiment de tous les artistes, de tous les hommes qui créent des œuvres, de l'espèce maternelle parmi les hommes. Ils s'imaginent toujours, chaque fois qu'une période de leur vie est terminée, une période qui se clôt sur une œuvre, qu'ils ont atteint le but même. Toujours, ils accepteraient alors la mort avec patience en se disant « Nous sommes mûrs pour elle ». Ce n'est pas là l'expression de la fatigue, mais bien plutôt d'une certaine douceur de l'automne ensoleillé que laisse chaque fois derrière elle, chez son auteur, l'œuvre elle-même, la maturité d'une œuvre. Alors, l'allure de la vie se ralentit. Elle devient épaisse et lourde de miel jusqu'à de longs repos, jusqu'à la croyance au long repos.